Sud Radio, regard de femme.
Avec le regard de l'avocate Aurore Boyard à Toulouse. Bonjour Aurore.
Oui, bonjour, c'est à Toulon.
Ah pardon. Oui, c'est vrai, bon, c'est pas mal aussi Toulon. Avec le regard de l'avocate Caroline Grima, vous me confirmez que vous êtes bien dans le Val-d'Oise?
Absolument Laurence, ouf, bonjour à toutes et tous.
Alors ça y est, après 2 mois de réflexion, les 11 groupes de travail du Grenelle des violences conjugales ont rendu mardi leur copie. Au total 66 mesures, alors bien sûr on ne va pas avoir le temps de toutes les commenter, mais en tant qu'avocate toutes les deux, vous vouliez revenir sur une proposition notamment qui... vous semble discutable, on va voir, je cite le texte, « permettre aux médecins de porter à la connaissance des autorités sans l'accord de la victime des faits de violence conjugale », autrement dit, la levée du secret médical sans l'avis de la victime. Qu'en pensez-vous l'une et l'autre ?
Alors, je suis toujours, c'est toujours très compliqué pour un avocat d'intervenir en matière de secret professionnel, parce qu'évidemment, c'est une vertu cardinale pour nous. Hein. Ouais. On fait partie de ces professions qui sont tenues à un secret professionnel absolu. Et lorsqu'il y a comme ça des brèches qui sont ouvertes dans ce secret professionnel, ou en tout cas qui sont envisagées, on est toujours un petit peu divisé sur le sujet. Mmh. Moi, j'ai 3 réflexions très rapidement par rapport à cette problématique. La première réflexion, elle est sur le rapport entre le soignant et son patient. Il est toujours extrêmement compliqué d'aller contre l'avis de son patient, contre la volonté de son patient, et la perspective de se dire « je vais finalement trahir la confiance que la personne met en moi lorsqu'elle me dit, lorsqu'elle me supplie parfois, parce que ça nous arrive à nous aussi, de ne pas dénoncer », c'est extrêmement, extrêmement compliqué.
Alors donc, cette proposition, pardon Caroline, mais justement cette proposition, c'est pour lutter contre le phénomène de l'emprise hein, qui empêcherait certaines femmes alors, de dénoncer ce qu'elles subissent.
On est tout à fait d'accord, mais déjà l'emprise, il faut la définir.
Bien
pour
sûr.
L'instant, ça fait partie du travail justement qui a été mis en place par ces différents groupes de travail. Tant qu'elle n'est pas précisément définie et que ses contours ne sont pas véritablement, encore une fois, bien défini, bien décrit, c'est très difficile de rentrer dans cette discussion. Deuxième point très important aussi, parce qu'il faut y penser, c'est de préserver le soignant lui-même. C'est-à-dire que ça va devenir compliqué. Ensuite, ça va être un petit peu systématiquement. Voilà le médecin qui systématiquement trahit finalement la parole de son
oui, c'est lourd à porter pour
son
lui.
Patient, c'est
oui.
difficile à porter, donc il faut envisager aussi de maintenir à tout le moins le secret pour qu'il y ait une espèce de d'enveloppe protectrice qu'effectivement le médecin puisse dénoncer, mais que cela se fasse de façon extrêmement discrète pour que éventuellement même l'agresseur ne puisse pas soupçonner que cela vient du médecin, et parfois c'est compliqué. Et puis dernière chose très importante, tout cela a un intérêt bien évidemment, à la condition que ensuite se mettent en place tous les éléments de protection nécessaires, ouais. Et ça suppose des moyens, et c'est toujours la même problématique. On a la possibilité de dénoncer, d'alerter, de porter plainte, etc., etc. Mais c'est la mise sous protection qui pose problème la plupart du temps, par défaut de moyens.
D'ailleurs, la plupart des mesures du Grenelle, d'ailleurs, n'ont pas été budgétées pour l'instant. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont très intéressantes. C'est parce que pour l'instant, elles ne sont pas budgétées. Et je crains un peu que ça réduise à peau de chagrin à partir du moment où il va falloir discuter, malheureusement, au sous comme à chaque fois.
Aurore Boyard, vous partagez cet avis sur cette proposition-là de la levée du secret médical sans l'avis de la victime?
Alors, je tiens à préciser que cette proposition mentionne bien que c'est sans l'accord de la victime des faits de violence conjugale en cas de risque sérieux de renouvellement.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'on laisse l'opportunité au médecin, ce qui ne va pas être simple non plus, de savoir s'il y a un risque ou pas de renouvellement des violences conjugales. Donc là, on est véritablement dans la confiance qu'il y a entre le médecin et le patient, parce que pour pouvoir évaluer s'il y a un renouvellement, un risque sérieux de renouvellement des violences conjugales, ben, il va falloir qu'il y ait un échange et un dialogue. C'est la raison pour laquelle les syndicats de médecins ne sont pas favorables à ça, parce qu'ils disent, là, on va carrément au-delà, on n'est pas simplement sur une simple constatation de coût. Aujourd'hui, les médecins font des certificats médicaux circonstanciés dans lesquels ils expliquent ce qu'ils voient. Ils doivent d'ailleurs faire attention quand ils les rédigent, mais ils ne peuvent pas dire « je soupçonne que c'est le mari » et ça, ça ne sera pas non plus le cas après. Oui. Mais par contre, ça veut dire que là, le médecin doit aller au-delà, puisque jusqu'à présent, il remet le certificat médical à son patient, qui ensuite l'utilise pour déposer plainte. Bon, là, on va au-delà. En cas de le risque sérieux de renouvellement, le médecin, on va lui donner la possibilité de dénoncer. Ça veut dire que corrélativement, s'il dénonce pas, est-ce qu'on pourra pas le poursuivre pour finalement le fait de ne pas avoir dénoncé, c'est-à-dire non-assistance à personne en danger. Donc, ça engendre ça aussi comme problème. Alors, moi, je suis assez mitigée parce que, comme disait Caroline, ça ne pourra fonctionner dans tous les cas, de toute manière, que si on met en place des éléments de protection. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire qu'à partir du moment où la personne, où le médecin a connaissance de ça, il devrait appeler un numéro, que la victime soit prise en charge tout de suite et qu'elle ne retourne pas chez elle. On le sait aujourd'hui, la grosse difficulté des victimes, il y a certes l'emprise, mais il y a aussi le fait que malheureusement, elles déposent plainte, elles vont voir le médecin, et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle quand même, parce que c'est important, c'est passé inaperçu, or c'est extrêmement important, il y a deux mesures qui ont été il y a une mesure qui a été prise il n'y a pas longtemps, les JAF maintenant devront rendre, alors ça on attend que ça soit validé, mais au moins la loi a été votée dans son principe, les JAF auront 6 jours pour rendre des ordonnances de protection. Le gouvernement a refusé l'augmentation de création de postes de juges aux affaires familiales, qui sont ces magistrats qui gèrent spécifiquement ce domaine-là et les ordonnances de protection et qui sont déjà débordés, premier point. Et deuxièmement, ils ont refusé également l'augmentation des crédits pour la formation des magistrats. Donc là aussi encore, on a soi-disant une volonté affichée, derrière on refuse les crédits. Et donc tout ça, toute la difficulté, elle vient de là. Et puis troisième chose aussi, on n'a pas avancé, et ça c'est important, on n'a pas avancé sur la prise en charge par les policiers, or ils sont au cœur même du système. C'est-à-dire que, certes, les médecins, quand les gens arrivent chez eux, vont peut-être constater, mais enfin après, c'est difficile de constater que les coups ont été portés par un conjoint ou pas. Si la victime ne parle pas non plus au médecin, ça va être compliqué. On va se retrouver bien dans le même problème que pour les enfants sur lesquels, des fois, y a des dénonciations, puis on s'avère que l'enfant a une maladie. Enfin, c'est quand même extrêmement compliqué.
Et au frère Boyard, pour rebondir sur ce que vous dites, alors pour améliorer l'accueil des victimes dans les gendarmeries ou les commissariats, les mesures annoncées, c'est mettre en place une grille d'évaluation du danger et un protocole d'accueil. Alors moi, derrière ces mots-là, j'avoue, je ne vois pas très bien concrètement à quoi ça ressemble.
Mais parce que l'évaluation, elle reste très, très subjective. C'est toute la difficulté du problème, c'est qu'il faut faire la balance entre la déclaration de la victime, la constatation des coups qu'elle a reçus, et puis de l'autre côté, le comportement du conjoint violent, est-il véritablement à l'origine de la problématique, faire une espèce de gradation entre les différentes affaires qu'ils ont à évaluer, et c'est ça qui est très compliqué. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir très rapidement, parce que c'est très important, c'est une mesure qui possiblement peut ne pas coûter très cher et qui aurait un impact extraordinaire sur tous ces sujets. Parmi les propositions évoquées, il y a favoriser la mobilité professionnelle de la victime. Et ça, c'est un vrai sujet, ça, c'est une vraie proposition.
Mais la faciliter comment, cette mobilité professionnelle?
La faciliter en négociant avec l'entreprise, avec l'employeur, pour que la personne, si par exemple elle est dans une entreprise d'envergure suffisamment importante, puisse avoir une mobilité professionnelle, éventuellement même avec un éloignement géographique facilité, parce qu'on sait que la plupart du temps, ce qui dissuade les victimes de porter plainte, ce qui les dissuade de partir, c'est le carcan financier, ce sont les contraintes financières, c'est l'impossibilité de pouvoir s'assumer en dehors du foyer dans lequel on vit et qui est aussi celui où on vit le pire cauchemar. Et ça, c'est véritablement une proposition qui, à mon sens, est très intéressante parce qu'elle permet à la victime de conserver son indépendance financière et de pouvoir en même temps s'éloigner géographiquement sans perdre son emploi.
Voilà, sachant
voilà
que
un élément important.
Il faut rappeler, parce que là, le temps tourne malheureusement, que ce Grenelle est bien sûr une première étape et que des réunions interministérielles sont prévues pour des arbitrages le 25 novembre prochain, donc on aura bien sûr le temps d'en reparler. Merci à vous deux, Aurore Boyard et Caroline Grima. Merci beaucoup.
Merci Laurence.
Merci.
Merci, au revoir.
À suivre dans quelques instants, vous avez la parole, c'est bien sûr votre rendez-vous à vous pour vous exprimer sur l'actualité de la semaine de votre choix. À tout de suite.